Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous ne manquerez rien sur notre antenne de 9h jusqu'à 1h du matin. 16 heures d'antenne non-stop avec toutes les épreuves en direct. Et aujourd'hui, un moment important avec la conférence de presse officielle ouverte aux médias du monde entier. Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, était notamment présent, tout comme notre reporter Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour à tous.
Il y avait les médias étrangers, j'en ai parlé, qui étaient à la rencontre de Tony Estanguet, assaillis de questions du coup aujourd'hui.
Ce qui intéresse les médias étrangers, c'est la sécurité. Ils sont certains dans Paris depuis quelques jours. Ils voient beaucoup de policiers, des policiers étrangers. Ils se demandent si Paris ne va pas être complètement policiarisé, militarisé et que finalement, il n'y aura pas de fête. Tony Estanguet, droit dans ses bottes, il dit la sécurité, c'est l'un des postes de budget les plus importants de ces Jeux Olympiques. Et pour qu'il y ait la fête, il faut qu'il y ait la sécurité. D'abord la sécurité. Puisque les gens seront en sécurité, ils pourront faire la fête. On a prévu plein de lieux de célébration. On pourra y faire la fête parce qu'il y a la police autour. Il en veut pour preuve le relais de la flamme où il y a eu plus de 6 millions de spectateurs le long de ce relais de la flamme qui arrive à sa fin. Ça a été une franche réussite. Aucun débordement. Pour lui, c'est l'exemple qui doit être reproduit pendant ce Jeux Olympiques. C'était l'une des questions principales de Tony Estanguet. Et c'est un peu lié, Flora, le peu d'enthousiasme des Parisiens pour lui. Parce que le relais de la flamme a été réussi, il est certain que les Parisiens et les Français vont s'enthousiasmer pour ces Jeux Olympiques. Les voyants sont au vert, c'est son expression pour le côté festif de ces Jeux Olympiques.
Ouais, il peut difficilement dire le contraire. Fred, je sais que tu n'es pas parisien, mais tu t'es baladé dans Paris là, ces derniers jours. Tu vois un petit peu que la ville aussi, elle est en train de changer et de se mettre à l'heure des Jeux Olympiques.
Oui, c'est un petit peu compliqué pour circuler, c'est un petit peu compliqué pour aller où on veut. Mais moi, je pense que la sécurité, c'est hyper important. Dans le climat géopolitique actuel, si tu n'as pas de sécurité, effectivement, il peut y avoir des débordements. Et si on ne mettait pas tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de problème, on dirait on n'a pas mis tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc je préfère qu'on soit trop précautionneux, qu'on ait trop de police et qu'on puisse faire la fête parce que justement on sera en sécurité.
Oui, puis cette question se posait aussi particulièrement pour la cérémonie d'ouverture, hein, évidemment, qui est dans un format particulier. Bien où sûr. C'est beaucoup plus simple d'avoir un service de sécurité dans un stade. Là, on est sur tous les longs des quais de Seine, ce sera évidemment différent. Morgane, un autre thème a été évoqué, d'autres thèmes, même nombreux, ont été évoqués avec Tony Estanguet.
Oui, notamment la billetterie. Certains ont pu être malheureux de ne pas être servi au moment du tirage au sort, en tout cas pas en bonne position et d'avoir pas les places les plus accessibles. Ces derniers jours, il y avait des places à la vente disponibles tous les jeudis. Maintenant, c'est tous les jours. Pourquoi ? La réponse de Tony Estanguet.
Maintenant qu'on a avec précision le nombre de places, on remet chaque jour encore des places à la vente. On a encore une vingtaine de sports qui sont disponibles encore à la vente de Paris 2024 avec des finales d'athlétisme à partir de 85€, avec des matchs de basketball à partir de 24€ pour le tournoi féminin, avec des matchs incroyables de l'équipe de France. Il y a encore de belles affaires à faire pour vivre ces Jeux en vrai dans les stades.
Ce sont plusieurs centaines de milliers de places encore à la vente. Il parle de l'athlétisme. La finale du saut à la perche masculin, par exemple, avec Mondo Duplantis, est disponible. Et l'autre sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est la qualité de la Seine. Est-ce qu'elle s'améliore? Oui, selon les derniers tests.
Grâce il s'est baigné, Tony Estanguet.
Il s'est baigné avec Anne Hidalgo il y a quelques jours. La météo est au beau fixe. Ça aide les dessins du patron de Paris 2024 pour les épreuves en eau libre et les épreuves de triathlon. Lui, en tout cas, est très, très confiant quant à la tenue de ces épreuves. Et pour une cérémonie d'ouverture sans pluie vendredi. On l'écoute.
Ouais, les prévisions météo sont très favorables, notamment sur les précipitations. On a un débit là qui a énormément baissé depuis une semaine, hein, qui était historiquement haut depuis plusieurs mois. On n'avait jamais vécu ça en France depuis très 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 longtemps. Donc c'est vrai que ça a pu générer un petit peu de doute à un moment donné. Puis début juillet, la qualité de l'eau de la Seine est au rendez-vous. Le débit baisse maintenant. Et vu les prévisions météo qui sont vraiment très fines aujourd'hui pour les 5 jours qui viennent, il n'y a plus aucun risque pour cette tenue de cérémonie d'ouverture.
Ah, tu vois, Fred, c'est bon, tu peux aller te baigner dans la Seine.
J'y vais, là, juste après.
T'as pris ton
baignoire. Pour me décontracter après les grandes gueules et ça.
Les Parisiens qui sont allés se baigner dans la Seine, du coup,
ils ont eu raison.
C'est vrai ?
Non, c'est important. Mais bien sûr, ça prouve des choses. Donc je suis ravi.
Morgane, il y a une annonce importante quand même aussi faite.
Oui, importante. En tout cas, autour des Jeux Olympiques, comment ça va se passer ? Comment les épreuves vont être lancées ? Tony Estanguet a levé le voile. Ben, on se croira au théâtre, comme avec le brigadier, vous savez, ce bâton qui vient frapper 3 coups. Bien, les épreuves seront lancées par une sonnerie et des champions dans les salles ou sur grand écran qui viendront frapper les 3 coups pour lancer les épreuves.
Oui. Tu seras, Fred ?
Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que certaines... Alors, je vous explique. Réellement, certaines...
Ils ne t'ont pas appelé, mais comment ça ?
Alors, certaines épreuves auront des sportifs qui feront à peu près la même cérémonie pour sur chaque site.
Et j'ai eu la chance
d'être contacté.
Et t'as dit non ?
J'ai dit oui, évidemment que j'ai dit oui.
Bah alors, où tu seras ?
Dès que je peux me montrer, je suis là. Tu devrais le savoir.
Et à quelle épreuve tu seras, du coup ?
Ben moi, sur du basket, éventuellement.
Éventuellement, évidemment, c'est logique. Merci beaucoup, Morgane, pour ces dernières infos. Tu seras évidemment avec nous tout l'été pour nous faire vivre notamment les épreuves de judo, avec, on l'espère, beaucoup de médailles à la clé. Et des médailles, on en espère aussi beaucoup grâce au sport collectif qui avait cartonné il y a 3 ans à Tokyo, et notamment le handball français. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous une championne olympique, Fred, Paoletta Foppa, la pivot de l'équipe de France. Bonjour Paoletta, merci d'être avec nous sur RMC.
Bonjour.
Paoletta, on est à 5 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture, mais on est surtout à 4 jours de votre premier match dans ces JO face à la Hongrie. Ce sera jeudi prochain à 19h. Ça va, je vous mets pas trop la pression là en disant tout ça ?
Non, je suis plutôt contente que ça approche. Franchement, la préparation, elle a été plutôt longue. Donc c'est vrai de se dire qu'on joue bientôt. Je pense que toute l'équipe a hâte.
Vous avez cette particularité aussi de démarrer la compétition avant la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous allez quand même y participer à cette cérémonie ?
Bon, on espère bien. Après, franchement, je pense que le coach va nous laisser assez libre. C'est vrai qu'on a match que le dimanche après, donc ça va dépendre des entraînements, mais je pense qu'une grande partie va y participer.
Ouais, Fred, t'as eu la même config, toi, en 2001.
Oui, c'était effectivement la même config, et nous, ça nous avait arrangé, parce que, effectivement, tomber contre les États-Unis dans la même poule, c'était plutôt intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à ton âge. T'as 23 ans, alors, tu triches un petit peu, parce que t'es né fin décembre, donc tu triches un petit peu. Mais t'as 23 ans, t'as déjà tout gagné. Comment continuer à être aussi motivé, avoir autant faim, quand on est déjà une superstar de sa discipline?
Ouais, on va rappeler, championne olympique, championne du monde et championne d'Europe avec l'équipe de France.
Et meilleur
déjà.
Pivot au championnat d'Europe, meilleur pivot à la Coupe du Monde, meilleur pivot aux Jeux Olympiques déjà. Ça fait beaucoup déjà.
Ouais, c'est pas mal, mais c'est vrai que j'ai quand même à cœur, là, des Jeux Olympiques à la maison, franchement. De gagner l'heure là-bas, je pense que tout le monde signe direct. Donc c'est vrai que de conserver le titre à la maison, j'espère qu'avec l'équipe on va y arriver. Mais honnêtement, quand on est sportif et quand on est un peu challenger, on veut fixer un peu tous les objectifs, et le but un peu c'est d'emmagasiner le plus de médailles possible. Donc l'envie vient tout seul, honnêtement.
Oui, je me doute. Et puis en plus, il y a évidemment les Jeux Olympiques que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu. Mais à quel point, racontez-nous, c'est différent pour vous, le fait que ça se passe justement à Paris, dans votre pays ?
Si je compare, moi, mes premiers Jeux Olympiques à Tokyo, déjà, c'était sous Covid. Donc, c'est vrai qu'on était vraiment un peu dans notre bulle. On sait que le public nous supportait, mais c'était vraiment un peu en décalé. Il y avait quand même pas mal de décalage horaire. Là, c'est à la maison. C'est un public français qu'on connaît bien. On sait que, quand on joue avec l'équipe de France en France, on arrive à faire à chaque fois des guichets fermés. On sait que le public nous aide beaucoup. Donc, on est quand même l'équipe la plus attendue sur cette compétition-là. Donc, de le faire à domicile, c'est une chance et ça va être une force. C'est à nous de l'utiliser. Et puis, de jouer aussi devant nos familles et nos amis, c'est quelque chose qui motive et qui met un peu du baume au cœur, surtout dans les moments difficiles. Donc, va falloir prendre ça sur... avec des pincettes, mais en tout cas de donner le meilleur de nous-mêmes.
On est avec Paoletta Foppa, la pivot de l'équipe de France de handball. Paoletta, vous êtes en ce moment au village olympique. Racontez-nous un petit peu à quoi ça ressemble, comment on se sent là-bas justement dans ce village.
Alors nous, on est arrivé un peu tôt, donc il n'y a pas encore tout le monde. Donc on a pu visiter un peu les choses en amont. Franchement, j'aime beaucoup. Je pensais pas que c'était comme ça à l'intérieur. Et franchement, le fonctionnement est bien, les chambres sont spacieuses, en tout cas de notre côté, nous, les chambres sont spacieuses et voilà, on mange bien et puis on a eu la chance aussi de s'entraîner directement aussi dans la salle au village. Donc on a un peu les privilèges parce qu'on est un peu les premiers arrivés, mais je pense que dans les prochains jours il y aura énormément de monde.
Ouais.
J'ai une question, c'est où les phases finales de handball?
Ça se passe à Lille.
Et donc voilà. D'où ma deuxième petite question.
Je
savais exactement où c'était. J'ai une deuxième question. Est-ce que tu détestes les basketteurs?
Pas du tout, j'aime leur dire de le basket, non, je les déteste pas. Mais
alors pourquoi ils vous posent la question, on va quand même rappeler, parce que du coup, en fait, le début de la compétition de basket est à Lille et ensuite les phases finales se jouent à Paris. Et donc, du coup, le handball, inversement, joue le début à Paris et ensuite à Lille.
Oui, voilà. Donc ma vraie question, alors, pour te taquiner, mais évidemment, mais aussi ma vraie question, c'est de savoir, est-ce que ça ne te dérange pas de faire ces Jeux Olympiques de Paris et malheureusement, ou heureusement, parce qu'à Lille, ça va super bien se passer. Il y aura un public fou, aussi, il y aura de l'ambiance, etc. Mais c'est quand même pas Paris. Est-ce que ça te dérange un petit peu de faire ces phases finales en dehors de Paris, tout simplement?
Déjà, je suis contente parce que la formule initiale à laquelle on nous avait proposé, je crois que c'était de tout faire à Lille, à la base. Mmh. Donc, normalement, nous, on n'était pas du tout censé le faire à Paris. Maintenant, on a la chance de faire quand même plusieurs matchs sur Paris. Donc, moi, mes proches habitent à côté. Donc, c'est sûr que c'est plus simple que tout se passe à Paris. Et on a la chance de faire la cérémonie aussi d'ouverture, alors qu'à l'initial, de le faire à Lille, ça serait beaucoup plus compliqué. Après, que les phases finales se jouent à Lille, franchement, moi, je le prends bien, parce que voilà, j'ai pas envie de me dire, voilà, c'est dommage ou autre. Mais déjà, on aura plus de capacité pour recevoir du public comparé à la salle à Porte de Versailles. Donc, voilà, je pense qu'à Lille, ça va bien se passer. On sera aussi un peu plus dans notre cocon, on va dire. Il y aura que les handballeurs entre nous, on va dire. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports ou autres. Donc voilà, faut prendre les choses positivement et ça va très bien se passer si on a la chance d'aller à Lille.
Mais tu l'as dit, vous commencez à Paris quand même, donc vous allez être dans le village. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans le village? Qu'est-ce que tu as envie de faire le plus? Moi, je me rappelle que j'avais eu la chance de manger avec plein d'athlètes différents, plein de sportifs.
De croiser,
incroyable, parce que finalement, c'est une énorme cantine. Est-ce que tu attends ça avec impatience?
Est-ce que
tu
as une idole que tu voudrais croiser aussi?
Oui.
Je sais pas trop. Après, j'espère croiser le plus d'athlètes possible, d'échanger aussi un peu avec le ressenti. C'est vrai que là, on est un peu dans la phase où on s'échange un peu les pins, parce que voilà, il y a des beaux pins dans d'autres pays ou autres. Mais comme je disais, il n'y a pas encore tout le monde. Mais c'est vrai que d'échanger ou même de voir des athlètes français revenir avec des médailles ou non, de parler avec eux un peu de leur ressenti ou autre, c'est vrai que j'avais eu un peu cette approche-là à Tokyo et j'espère le retrouver en mieux parce qu'il n'y a pas le Covid. Il n'y a pas le Covid ici, mais c'est vrai d'échanger dans le réfectoire ou de croiser d'autres athlètes à la salle de sport, de parler d'autres choses que notre propre sport. Ouais, c'est vraiment un truc qui fait rêver et qui fait plaisir en tout cas.
Notre championne olympique de handball est avec nous, Paoletta Foppa, dans l'intégral sport sur RMC. On va parler un peu plus de vous, Paoletta, parce que je l'ai dit, vous allez disputer vos deuxièmes Jeux olympiques, mais c'est vrai que comparé à il y a 3 ans, votre statut a clairement changé aussi en équipe de France. Comment vous le vivez ça? Vous avez un rôle complètement différent aujourd'hui?
Ouais, c'est clair. Quand j'ai commencé mes premiers jeux, j'ai fait que d'attaquer. Maintenant, je fais les deux, qui se défend, et puis je fais partie des anciennes. Mais je suis toujours jeune, donc ancienne jeune. donc c'est différent. Les filles attendent beaucoup plus de moi, ce qui est sûr. Elles doivent prendre aussi un rôle de leader. Il y a beaucoup de filles aussi, c'est leur première Jeux olympiques, donc. C'est une formule qui est aussi différente des autres compétitions. On n'est que 14 sur la feuille de match, alors que les autres compétitions, on est 16. Mmh. Et je pense qu'on appréhende aussi les choses un peu plus différemment. Donc, on va dire qu'avec mon petit vécu des JO à Tokyo, je peux aussi parler avec les filles et leur dire un peu comment ça se passe. Et voilà, on va dire que j'ai un peu plus de vécu, on va dire, par rapport à la chance que j'ai eue d'avoir fait déjà des Jeux. Après, on sait toutes que les compétitions ne se ressemblent pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que mon statut a changé parce que j'ai eu l'opportunité d'apprendre à côté des anciennes qui m'ont transmis aussi un peu leur savoir-faire. Donc, c'est à moi aussi maintenant de le faire avec mes coéquipières.
T'es une jeune vieille, quoi, pour résumer.
Ouais, c'est ça, je suis une jeune vieille.
Une jeune taulière. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas forcément, on va faire un petit raccourci. Je ne sais pas s'il va vous plaire ou pas, mais c'est vrai que vous êtes la petite pépite de cette équipe de France. Certains vous appellent même la Mbappé du handball français. Ça vous fait quoi? Vous aimez bien cette comparaison ou pas du tout?
Je crois qu'elle court plus.
Je prends. Non, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est un footballeur très 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 talentueux. Donc c'est toujours plaisir quand on nous compare à une superstar comme ça. Après, c'est quand même différent. Mais, ouais. Mais ça fait plaisir. C'est vrai que je suis arrivée jeune et j'ai eu la chance d'arriver quand l'équipe de France gagnait le plus de titres possible. Donc je suis arrivée au bon moment, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître de très très grandes joueuses en équipe de France qui m'ont appris très vite. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de titres individuels et collectifs. Je j'espère que ça va continuer. Mais voilà, c'est aussi à moi d'apprendre aussi aux générations qui arrivent. Et je pense que c'est un peu ça le cycle en équipe de France.
Ah, c'est drôle parce que c'était exactement ma question. Est-ce qu'il y a une culture de la gagne au handball? Parce que concrètement, dès qu'on voit une équipe de handball française, on dit bah, ils vont gagner parce que c'est les plus forts, parce que voilà. Mais est-ce que ça se transmet? Est-ce que ça s'explique? Ou il y a juste une formule magique?
Ce serait franchement, s'il y avait une formule magique, j'aimerais beaucoup l'apprendre par cœur. Non, c'est vrai, c'est beaucoup de communication, beaucoup de sacrifices, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Et on va dire que c'est des choses qui payent par la suite. On s'entraîne aussi énormément et qui permet aussi d'avoir des repères les unes avec les autres.
Paoletta, t'es d'accord avec moi que tout le monde s'entraîne énormément. Nous au basket, on s'entraîne énormément et malheureusement, on n'a pas toujours les bons résultats. Tu vois.
Oui, c'est sûr. Après, je sais pas. Après, on est vraiment toutes différentes aussi, et on arrive aussi à proposer aussi des choses différentes que certaines équipes ne proposent pas. Après, je pense qu'on va aussi nous attendre là-dessus sur cette compétition-là, mais je sais pas. On est une bonne de copines aussi. On s'entend vraiment toutes bien, et je pense que c'est aussi rare dans un collectif. Donc, franchement, je sais pas, mais je sais que on a une force un peu tout ensemble, et on arrive à la mettre au service du collectif, et c'est vraiment ça. On va dire pour un match, on n'aura jamais une qui va sortir du lot, on en aura toujours 5-6, et ce qui fait un peu la différence des autres nations.
Une bande de copines, mais tu vas être en chambre avec quelqu'un. Tu sais déjà avec qui tu vas être en chambre?
Je suis déjà en chambre avec Ariane Ondono.
Okay. C'est vous qui avez choisi, d'ailleurs.
On choisit, oui, c'est nous qui choisissons.
C'est les affinités qui parlent.
Ça doit être super dur, parce que si, comme moi, personne ne t'aime, ben, tu te retrouves avec qui? Personne
arrête,
ne vient avec moi.
Il y a des chambres solo.
Ensemble, c'est triste.
Il y a une solution, tu vois, Paoletta nous dit, il y a des chambres solo.
Voilà, il y a des chambres solo.
Il y aurait une solution pour toi, Fred. Vous, Paoletta, vous abordez quand même ces JO avec un titre de meilleur défenseur du championnat, avec votre club du Brest-Bretagne Handball. Ça met en confiance aussi avant d'aborder un tel rendez-vous comme les JO, d'avoir ce titre sur les épaules avec vous?
Ouais, c'est clair. Bah, ça montre que voilà, on a quand même bien travaillé tout au long de la saison. Voilà. Après, je sais qu'on attend aussi beaucoup de moi sur cette compétition-là, mais c'est vrai d'avoir des petits satisfactions comme ça. Ça fait plaisir et ça booste encore plus pour donner le meilleur de soi-même.
En plus, vous restez, je vais vous le rappeler, sur un fantastique 7-7 au tir au JO lors de la dernière finale à Tokyo. Faut enchaîner sur le même rythme maintenant pour le premier match face à la Hongrie.
Hein. Ah bah, je vais essayer. En fait, c'est pas mon premier match, donc j'espère que je vais monter en puissance crescendo. Mais oui, c'est sûr que, en tout cas, j'ai à cœur de faire des JO, les meilleurs JO que je puisse faire. En tout cas, je donnerai tout pour y arriver.
Nous, on voudrait bien que tu viennes au basket, parce qu'on a un vrai problème d'adresse. C'est les garçons. Mais si tu pouvais peut-être venir de temps en temps.
Non, je pense pas que je sois aussi bonne au basket. J'avais commencé, mais j'étais pas très, très bonne.
D'où le choix du handball aussi, peut-être.
Exactement.
Bon, Paoletta, avant de vous laisser tranquille, c'est quoi votre programme maintenant dans les prochains jours jusqu'à ce match d'ouverture, donc face à la Hongrie jeudi?
On a rendez-vous à Créteil cet après-midi pour recevoir la flamme olympique. Et après, on a entraînement, musculation, entraînement jusqu'au jour J.
C'est bien, ce groupe avec la Hongrie, les Pays-Bas, le Brésil, l'Angola et l'Espagne, où vous êtes évidemment favorite, vous nous l'avez dit, avec ce titre de championne du monde aussi remporté en fin d'année dernière. Vous sentez que vous avez une cible dans le dos un petit peu quand même avant ces JO?
Ah, dans le dos, dans le front, sur le cœur, partout. Hein. Clairement, on est vraiment l'équipe, je pense, à abattre. Je pense que tous les collectifs ont vraiment travaillé sur ce qu'on a fait aussi récemment, que ça soit au Mondial ou sur les dernières compétitions. Donc, ça va pas être simple, mais voilà, là, on va arriver dans un cursus où chaque victoire va compter, même si on va un peu mal jouer. Voilà, ça sera vraiment ça. Et après, voilà, faut pas oublier que c'est une compétition et que voilà, chaque match est très 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 important.
Un très grand merci Paoletta d'avoir été avec nous. Beaucoup. Merci pour votre fraîcheur, votre bonne humeur.
Bon courage, beaucoup d'adresse et surtout l'or au bout. Hein.
Croise les doigts.
Très gentil.
Et on vivra ça sur RMC. On espère d'ailleurs vous voir au Club France. On y sera aussi. Venir dans le studio RMC pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup Paoletta.
Avec plaisir.
Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Merci. Premier match, on le rappelle, pour nos Bleus face à la Hongrie jeudi prochain à 19h. On suivra évidemment tout ça, Fred, sur RMC. Vous ne manquerez rien. Restez bien avec nous. Notre magazine olympique revient après une courte pause. On va vous raconter l'une des belles histoires de ces JO parisiens. Il est 13h43. L'Intégral Sport revient tout de suite.
RMC Intégral Sport. Flora Moussi.
sport dans l'intégral sport et on vous accompagne toute l'après-midi sur RMC jusqu'à 16h avant de passer le relais à Christophe Cessieux et toute l'équipe de l'intégral tour pour vivre la dernière étape de ce Tour de France contre la montre, on vous le rappelle, entre Monaco et Nice. En attendant, on est toujours au cœur de notre magazine olympique en route pour Paris 2024. On était avec Paoletta Foppa il y a quelques instants, la championne olympique de handball. Bilal Koulibaly, le petit prodige du basket français, sera aussi avec nous tout à l'heure. On est toujours avec Morgane Maury, notre reporter olympique. Alors évidemment, on s'intéresse de près à nos athlètes français qu'on espère voir briller à Paris, mais il y a aussi beaucoup d'autres belles histoires dans ces Jeux olympiques et notamment celle de Juan Miguel Postigos, porte-drapeau de la délégation du Pérou, et il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Hola Juan.
Hola.
Alors, heureusement pour moi, vous parlez très bien français et du coup, on va éviter à tout le monde mon triste accent espagnol. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire et pourquoi vous parlez si bien français aujourd'hui.
Tout d'abord, merci pour votre invitation, ça me fait très plaisir. Mmh. Moi, je suis arrivé ici en France il y a 13 ans grâce à une bourse olympique dans laquelle j'ai pu participer au JO de Londres et ensuite à Rio. Je suis arrivé à un centre d'entraînement à Rouen, sur Petit Couronne. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire ma vie ici en France. Et j'ai également participé au JO de Tokyo. Mais à ce moment-là, j'avais trouvé une copine ici en France, j'avais trouvé un travail. Et puis après Tokyo, j'avais plus ou moins décidé d'arrêter ma carrière de sportif de haut niveau. Mm-hmm. Mais toutes les choses qui m'entouraient ici en France me sont poussées pour tenter une dernière fois mes qualifiés au JO, et puis j'ai réussi, et maintenant je suis là.
Juan, tu es un personnage qu'on croise beaucoup sur les dojos français, dans les compétitions entre équipes de clubs. Sans la France, tu n'aurais pas pu devenir l'aussi bon judoka que tu es devenu, qui fait 4 fois les Jeux Olympiques. Si tu restais entraîné au Pérou, ça n'aurait pas été possible.
Ça, c'est vraiment une certitude. J'ai trouvé toutes les choses que j'ai voulu ici en France, surtout l'entraînement. Je suis... rencontrer des bonnes personnes à mon arrivée ici. Et j'ai précisément vous parlé de Sébastien Mansois. Quand je suis arrivé à Rouen, c'était lui l'encadrant de Pôle Espoir de Rouen. Et c'est lui qui a m'aidé beaucoup à progresser. Ensuite, et ces dernières années, c'est lui le DTN de l'équipe de France de judo. Et du coup, comme ça, je suis entouré de très bons entraîneurs qui me sont aidés au cours de ces dernières années. Et puis, je pense que oui, sans la France, il n'aura pas pu faire mes 4 JO.
Grâce à tous ces efforts, tous ces
sacrifices
aussi. C'est le terme que je cherchais. Tu es porte-drapeau de ton pays. C'est quand même une fierté immense, quand même, j'imagine.
Ouais, c'est quand même une fierté. Je me sens très content d'avoir été élu parce que je pense que ça joue beaucoup le fait que je suis en France aussi. Mmh. Et que n'est pas tous les sportifs de mon pays, ils sont fait 4 fois les JO. Donc, pour moi, c'est une fierté énorme.
Quels sont les messages que tu reçois? Quel est l'engouement autour de ton rôle de porte-drapeau au Pérou? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu sens aussi?
Je sens beaucoup d'encouragement. Beaucoup de gens qui est derrière moi et derrière l'équipe des Pérou aussi. Et je sens beaucoup de messages positifs aussi. Parce qu'on ne va pas se mentir, le Pérou, c'est une petite nation. Et on espère peut-être avoir une médaille olympique, peut-être 2, mais pas plus que ça. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir réussi à se qualifier et de pouvoir représenter mon pays dans le plus haut niveau.
Et en plus, vous allez être porte-drapeau lors d'une cérémonie bien particulière. Normalement, on est dans un stade. Là, vous allez être sur un bateau, sur la Seine, pour conduire votre délégation. Ça aussi, ça va être un moment très fort pour vous.
Oui, ça va être très ému, je pense. Je vais essayer de ne pas pleurer. Parce que je sais qu'il y a ma conjointe, il y a sa famille, il y a tous mes amis qui vont me regarder à la télé. Il y a aussi mes collègues de travail. Donc, je pense que ça va être un moment très important pour moi. Et il ne faut pas oublier que ça va rester dans l'histoire. Parce que c'est toute première fois qu'on va défiler dans la scène.
Est-ce que vous savez déjà, pardon Fred, mais comment ça va se passer? Est-ce qu'on vous en a parlé? Vous savez ce que vous allez devoir faire? Vous savez un petit peu le déroulement de cette cérémonie?
Pas du tout. Pour l'instant, j'ignore tout ça. Je suis encore à la maison.
C'est la surprise.
Je vais rejoindre ma délégation que mardi là. Mmh. Et donc, peut-être là-bas, il y aurait plus d'informations, mais pour l'instant, je ne prends pas la tête, j'essaie de profiter ces derniers temps avec ma conjointe, essayer d'être un peu ailleurs de tout ça, et puis au moment donné, je vais recevoir toutes les informations d'un coup.
mais tu es déjà combien de membres est composée cette délégation péruvienne ou pas du tout?
Oui, si, on est 26 athlètes. On est beaucoup de sportifs d'athlétisme, surtout dans la marche, les marathons. Okay. Et malheureusement, des sports de combat, je serai le seul représentant. Parce qu'au judo, il n'y en a que moi, mais après, en lutte, en boxe, on n'a pas de représentation olympique. Mais après, il y a beaucoup d'espoirs aquatiques aussi, le surf, la voile, tout ça.
Il y a d'autres athlètes péruviens qui ont fait cette démarche d'aller dans un autre pays pour travailler avec d'autres professionnels ou tu es le seul à avoir fait ça?
Et normalement, si, on avait une fille qui avait fait la voile pendant des années, qui était en Italie. Mmh. Il a fait aussi également que moi, 4 fois les JO. Mmh. Donc du coup, ça montre que dans mon pays, en fait, le sport, il n'est pas très bien développé. Tu n'as pas tous les outils comme on a en France. Et puis surtout ici, votre mentalité, c'est incroyable. Les Français, moi, je travaille à la SNCF. Et mon chef, malgré que je ne suis pas français, mon chef, il me donne tout le temps un coup de main. Il essaye de m'arranger pour pouvoir faire mes compétitions à l'étranger. Je remercie cette chose aussi parce que dans mon pays, soit je travaille, soit je fais des sports, mais je ne pourrais pas faire les deux.
Donc, tu n'es pas professionnel de ton sport. Tu travailles et c'est un petit supplément, j'ai envie de dire.
C'est ça. À un moment donné, dans mon pays, avec les crises politiques qu'il y en a eu ces derniers temps, en fait, soit j'ai travaillé, soit j'ai fait le sport. Je ne pouvais pas vivre dès le judo. Et du coup, j'ai peut-être pris le schéma le plus dur, c'est d'aller travailler le matin parce que je fais 7h-15h presque tous les jours. Mmh. Et derrière, l'après-midi, je vais m'entraîner. Mais c'est parce que j'aime trop mon sport et j'ai voulu en fait aller jusqu'au bout de ma carrière en finissant à Paris. Près des légions qui aiment, quoi.
Eh ben oui, on est avec Juan Miguel Postigos, le porte-drapeau de la délégation du Pérou, qui parle extrêmement bien français. Déjà, bravo à vous. Est-ce que ça vous met la pression aussi d'être porte-drapeau, justement, pour votre compétition à venir? Ça met une pression supplémentaire par rapport aux autres Jeux Olympiques que vous avez vécu?
Peut-être, oui, un petit peu. Ouais. J'avoue que voilà, je sens la responsabilité de faire une bonne compétition. Après, les jours de la compète, je pense que je vais essayer, je me prépare aussi pour faire un beat dans ma tête, pour pas réfléchir et pour essayer de faire ce que j'aime faire, que c'est des judo.
Oui, excuse-moi, je réfléchissais en même temps et je trouvais qu'il y avait une certaine analogie avec David Douillet. Je me dis, est-ce que, justement, t'es parti, tu as vu autre chose pour le sport, ça te dirait pas un jour d'être ministre du sport dans ton pays?
Pour faire évoluer les choses,
parce que tu as vu d'autres choses, tu as une expérience que d'autres n'ont pas, et je me dis que ça pourrait vraiment faire évoluer les choses et ce serait que dans le bon sens, en fait.
Ouais, c'est vrai, ça. C'est des choses qui me tentent, mais après, moi, franchement, honnêtement, je ne me vois pas revenir chez moi parce que j'ai trouvé une tranquillité ici en France, j'ai commencé à construire une famille et c'est pas évident. Moi, je peux être un peu égoïste et de dire, je rentre chez moi, je peux devenir entraîneur, président de la FEDE ou politicien. Mais il y a ma conjointe aussi, et voilà, qui a sa famille à elle. Donc, du coup, si on est tranquille, donc je pense que ça, c'est important aussi à un moment donné.
Juan, il n'y a pas beaucoup de Français, j'imagine, qui sont allés au Pérou, qui connaissent ce pays. C'est un pays qui adore le foot, qui a une grande équipe dans les années 70-80. Mais quand on est judoka, quelles sont les conditions au Pérou par rapport à ce que tu as en France? Décris-nous où tu t'es entraîné quand tu étais petit garçon, à quoi ressemblaient les dojos, les tatamis, les judogis que tu devais porter. Est-ce que c'est les mêmes choses? Est-ce qu'il y a un grand écart entre le Pérou et ce que tu vis en France?
Ah oui, l'écart, il est énorme. Moi, dans mon région, j'avais des tapis faits avec la paille. À mon époque, mes kimonos, c'était un kimono avec... Enfin, c'était pas le vrai tissu des kimonos actuels. J'ai galéré beaucoup pendant des années. Heureusement, j'ai le soutien de mes parents. Mes parents, ils sont jamais cherchés à que je sois champion ou pas. Juste, ils sont poussés pour que je fasse ce que j'aime. Et j'aimais le judo dès le début. Juste pour dire un exemple, à l'actualité, moi j'ai un neveu qui a 6 ans. Il me voit faire des compétitions, il a voulu démarrer le judo. Et malheureusement, au Pérou, il n'y a pas de club pour des enfants. À Lima, à la capitale, il y a très peu de clubs qui apprennent le judo à des gamins de 5 ou 6 ans. Et ça, par rapport à la France, qui est in chaque commune, j'ai un petit dojo où tu peux amener ton enfant et démarrer très tôt. Bah, au Pérou, on n'a pas ça. Donc les différences sont très grandes.
Juan Miguel, une dernière question avant de vous laisser aussi vous préparer à rejoindre votre délégation mardi, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez une idole dans le monde du judo? Vous parlez beaucoup de la France, est-ce qu'il y a une idole française ou alors vous avez quelqu'un d'autre qui vous a inspiré à faire du judo?
Il les connaît tous maintenant.
En France, il y en a beaucoup. J'admire beaucoup des gens qui sont passés à l'époque quand j'étais gamin. J'ai regardé les Jeux Olympiques de Atlanta, Daniel Bourras. C'était un gaucher grand en fait à l'époque. Après le judo mondial, il y en a eu beaucoup. Iliadis, Inoue, ils sont inspirés. Après, moi quand j'étais encore plus, quand j'ai commencé à grandir dans les sports, j'aimais bien la mentalité de Rafael Nadal. on a tous aimé ça. Mais sinon, la personne qui m'inspirait quand j'étais gamin, c'était mon entraîneur de jeunesse. Il a aussi également fait le judo les années 2000. Quand il était encore athlète, et il m'a amené à m'entraîner avec lui. Quand lui préparait les JO, moi j'étais encore gamin et je l'accompagnais à s'entraîner. On s'entraînait un peu ensemble. Donc du coup, je pense qu'avoir vécu ça avec ces moments-là, ça m'a poussé pour arriver où je suis actuellement.
Juan Miguel, tu sais ce qu'on a envie de te dire, que ton histoire est inspirante, que c'est extraordinaire ce que tu nous as raconté, qu'on est super heureux pour toi et pour l'image que tu donnes des Jeux Olympiques. Donc une vraiment félicitations.
Merci beaucoup.
Merci, Juan Miguel.
Merci d'avoir été avec nous. Muchas gracias. Mucha suerte aussi pour ces JO. Ah oui, on fait l'effort quand même. Vous faites l'effort. Nous, on fait l'effort.
Ha sido un placer.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Juan Miguel. À bientôt.